Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. Au menu de l'émission de ce soir, les statistiques ethniques. Aujourd'hui interdites à proprement parler en France, elles font régulièrement débat. Rappelez-vous par exemple, en 2007, Nicolas Sarkozy avait voulu les légaliser. Un livre sorti il y a quelques jours repose sans détour la question, les prisons de France, une enquête signée par un sociologue, Farhad Khosrokavar, qui aurait bien aimé pouvoir quantifier scientifiquement la part, par exemple, des détenus musulmans ou des détenus issus de l'immigration. Pour Farhad Khosrokavar, les statistiques ethniques auraient un apport scientifique. C'est aussi l'avis du journal Le Monde qui a signé un éditorial intitulé « Soyons réalistes » ou encore de la sénatrice Esther Benbassa qui y voit une manière de lutter contre les discriminations.
Aujourd'hui, il faut aller de l'avant et sortir de ce tabou parce qu'on ne peut pas trouver des remèdes quand on n'a pas mesuré le nombre de personnes qui souffrent de ces discriminations.
Un tabou qui continue toutefois de diviser, car pour les détracteurs des statistiques ethniques, leur autorisation ouvrirait au contraire une sorte de boîte de Pandore. Elle risquerait par exemple de donner plus de prise aux préjugés, de détourner la question des inégalités sociales. Alors, pour ou contre les statistiques ethniques, c'est le débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. France Guérin-Passe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe, statisticienne, à l'INED, à l'Institut National des Études Démographiques. Vous êtes contre les statistiques ethniques, vous allez nous expliquer pourquoi. Notre deuxième invité est François Errant, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, démographe, ancien directeur de l'INED. Alors vous êtes plutôt favorable aux statistiques ethniques, ou plus précisément, si j'ai bien compris votre position, à l'élargissement de leur autorisation, car en fait, la CNIL, en France, aujourd'hui, peut autoriser, au cas par cas, des études, des sondages, introduisant des critères ethniques ou religieux, en fonction de la finalité de l'étude, de l'institut qui l'a réalisé, de l'accord et de l'anonymat des personnes interrogées. Pour vous, François Errant, il faut aller aujourd'hui encore plus loin.
Alors, je voudrais d'abord dire que vous avez introduit le sujet avec l'allusion à l'enquête de Farhad Khosrokavar. Ça a déjà été fait. Il y a déjà une enquête qui a été associée au recensement, qui s'appelle l'enquête famille, qui avait un volet sur les prisons et dans lequel on a les pays de naissance des parents. On sait quelle est la proportion, à cette époque-là, de personnes qui étaient immigrées d'une part et enfants d'immigrés de l'autre. Ça a été publié. Si vous faites sur vous googlez INSEE prison, vous tombez immédiatement sur ce texte. Donc, c'est pas du tout interdit. C'est possible, ça a déjà été fait.
Et disons que ce n'est pas la règle, c'est l'exception. Alors, il faut avoir une autorisation.
Oui, bien sûr, mais il faut avoir une autorisation pour tout. Parce qu'il faut comprendre que la quasi-totalité du savoir que nous avons sur un très grand nombre de sujets sensibles en France, nous l'avons par dérogation. Le comportement sexuel, l'avortement, je pourrais citer des quantités de sujets, ce qui se passe en prison, etc. À chaque fois, c'est par dérogation une règle générale qui est l'article 8 de la loi informatique et liberté, et qui disait, voilà, il est interdit de faire apparaître, de collecter et de traiter des données qui risquent de faire apparaître directement ou indirectement toute une série d'appartenances.
Et donc vous voudriez qu'on enlève cet article,
non,
par exemple?
Absolument pas. Non,
ou
non,
que
non,
l'autorisation non. soit plus dérogatoire,
non,
mais toujours possible?
Je vais vous expliquer. Ces appartenances politiques, syndicales, c'est les origines, c'est l'orientation sexuelle, c'est l'état de santé. Or, il y a des enquêtes sur l'état de santé, il y a aussi la religion, il y a des enquêtes sur la religion, il y a des enquêtes sur les orientations sexuelles. Tout ça, nous le faisons. Et l'INED est d'ailleurs un des endroits où ça se fait le plus.
Mais donc
ça
alors, il n'y a rien à changer? Vous dites que c'est
alors
déjà possible?
Alors ça se fait par dérogation. Parce que le même article qui définit le principe général, le même article introduit une dizaine d'exceptions. Ces exceptions, c'est d'abord la finalité. Pourquoi fait-on ce genre d'études? Est-ce que ça peut être un intérêt public ou pas? Est-ce qu'il y a le consentement des personnes? Est-ce que l'anonymat est garanti? Etc., etc. Est-ce qu'il y a des garanties qui sont... Il peut y avoir une forme d'anonymat à la source, il peut y avoir tout ça. Et c'est la CNIL, la Commission informatique nationale de l'informatique et des libertés, qui est chargée de décider si oui ou non le projet d'enquête qui lui est soumis peut bénéficier de cette dérogation.
Mais alors vous, votre position, c'est quoi? Il faut que la CNIL dise plus souvent oui?
Ma position, c'est pas du tout ça. Je n'ai absolument aucune revendication à présenter à la CNIL. La CNIL fait exactement le travail qu'elle fait. Elle vérifie scrupuleusement si les dérogations sont possibles ou pas. Et je raisonne à législation constante. Je ne demande absolument pas de changement de la législation. Je n'ai jamais demandé. Et je dis simplement aux chercheurs, utilisez davantage les dérogations qui sont possibles.
Alors, France Guérin passe peut-être une première question. Est-ce que déjà vous partagez l'analyse de M. Héran sur la possibilité, la faisabilité du recours aux statistiques éthiques en France?
Bien sûr, il existe déjà de nombreux moyens de mesurer les origines nationales ou l'appartenance des personnes. Maintenant, moi, j'aimerais revenir sur ce qu'on entend par statistique ethnique, parce que c'est un objet qui a des contours extrêmement flous et variables. Et d'ailleurs, quand on en a débattu il y a déjà plusieurs années, c'est un débat qui est un peu récurrent. C'est vrai qu'en ce moment, il est moins, je peux dire, explosif, même si ce débat sur les prisons a fait ressurgir ces statistiques. Pourquoi faire? Est-ce que c'est pour mettre dans le recensement? Est-ce que c'est pour mettre dans des enquêtes? À un moment donné, les personnes qui étaient pour les statistiques ethniques souhaitaient introduire dans le recensement les origines, le lieu de naissance des parents. Or, pour les personnes qui étaient contre ces statistiques ethniques, une manière de mesurer l'origine nationale, et dont je fais partie, cela changeait le sens du recensement à partir du moment où on ne s'intéressait plus à la personne elle-même, mais à ses ascendants. Maintenant que dans des enquêtes, on recueille l'origine des personnes, cela me paraît tout à fait souhaitable pour des cas pour étudier, alors après ça s'appelle la diversité, l'identité, les discriminations, l'intégration. Là aussi il y a tout un ensemble, un mélange entre les objectifs plutôt positifs, étudier l'intégration des immigrés ou étudier les discriminations dont aujourd'hui ils seraient victimes ou ils sont victimes, c'est pas du tout la même chose, donc c'est pas les mêmes outils, on n'a pas le même,
Mais alors où se situe votre limite pour vous? Quand est-ce qu'il ne doit pas y avoir recours aux statistiques ethniques?
Alors, c'est pas quand est-ce qu'il doit y avoir ou pas avoir recours aux statistiques ethniques, c'est de quelle manière. Est-ce que l'on veut, en Russie, par exemple, si vous prenez, on a vraiment un catalogue des, ce qu'on appelle là-bas des ethnies, qui en fait s'appellent des nationalités, qui compte à peu près un catalogue de 1000 appartenances possibles. Et après, sont restitués après le recensement une centaine de ces appartenances. Alors que, par exemple, si vous prenez les races aux États-Unis, là, vous avez vraiment 5 catégories, qui se déclinent chacune, qui sont, est-ce que l'on veut quelque chose d'extrêmement étendu? De quelle manière est-ce qu'on va le restituer? Et surtout, pourquoi en faire? Est-ce que, dessus, on veut s'appuyer sur des politiques qui permettront des politiques de discrimination positive? On
sait qu'en France, avant d'en venir, évidemment, puisque ce sera la prolongation du débat, mais alors, juste pour que ce soit clair, vous, par exemple, vous seriez plus favorable au modèle russe, avec une centaine d'ethnies qui sont recensées, ou plutôt au modèle américain?
Non, tout dépend pourquoi faire. Là encore, je vous dis qu'il faut des outils adaptés aux objectifs. Si c'est pour regarder, mesurer la diversité, dans ces cas-là, je suis pour, dans ces cas-là, le sentiment d'appartenance. Je travaille beaucoup sur les questions d'identité et de territoire. Est-ce que les gens se sentent d'ici ou d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait que dans un parcours géographique, on se sente plutôt d'une commune ou de son pays d'origine? Là, je pense que c'est très intéressant de pouvoir relier le sentiment d'appartenance des personnes sans les mettre d'office dans une catégorie qu'on leur assigne.
Alors, François Héran, pour vous, quel usage est valide, légitime, possible?
Mais je voudrais d'abord, en fait, il y a deux grandes distinctions à opérer sans lesquelles on ne comprend rien du tout au débat. La première distinction, c'est statistique
ethnique.
J'espère
quand même que les auditeurs comprennent.
Oui, non, mais attendez, vous allez voir, c'est vraiment important. Il y a statistique ethnique versus statistique ethno-raciale. L'ethno-raciale, ça n'existe pas en Europe. Il n'y a que la Grande-Bretagne, l'Irlande, je crois, qui ont effectivement, par exemple, dans le recensement, une liste de catégories préétablies. Il faut cocher et vous avez des catégories du genre noir, arabe, asiatique, etc., avec ensuite des aires culturelles qui distinguent. Ça, c'est le système américain qui a été adopté par les Britanniques en 2000, qui est très récent. Ça n'existe que là-bas, ça n'existe pas du tout sur le continent. Nous sommes exactement dans la même situation que tout le reste de l'Europe continentale. La Russie, c'est très particulier, c'est les nationalités au sens du 19e siècle. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Et alors, ça, c'est la première distinction. Donc, la statistique que fait l'INSEE, la statistique républicaine, si vous voulez, puisqu'elle prend des variables d'état civil, qui peuvent être des variables d'état civil des parents, elle est aussi ethnique. Il y a une statistique républicaine ethnique, en quelque sorte. Mais ethnique, ça veut dire quoi, dans ce sens précis du mot? Ça veut dire ce qui reste de l'ancienne nationalité d'origine quand vous habitez dans un autre pays. C'est ça que veut dire ethnique. Maintenant, il y a une deuxième distinction qui est fondamentale, c'est la distinction entre des fichiers de recherche, de connaissances, qui sont anonymes, et des fichiers de gestion. Ce qui est totalement interdit, pourquoi la CNIL ne donne jamais de dérogation, c'est d'inscrire, et ça peut concerner les prisons, c'est d'inscrire les origines, y compris nationales, y compris l'état civil des parents, c'est d'inscrire ces origines dans des fichiers d'élèves, de locataires,
donc pour
de
vous,
salariés.
Ça c'est une ligne rouge.
Et ça, c'est la ligne rouge que fixe la CNIL, et c'est une ligne rouge qui, à mon avis, doit être respectée.
France Guérin-Passe, vous êtes d'accord, j'imagine, là-dessus ?
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, tout dépend, même dans le recueil des statistiques ethniques, on sait qu'elles peuvent être utilisées pour le meilleur ou pour le pire. C'est-à-dire que pour certaines personnes, savoir, comme l'affaire avec, qu'on a vu avec Robert Ménard, ou bien savoir comptabiliser au sein des écoles ou au sein des entreprises pour en faire une politique de la diversité, ou bien pour stigmatiser. Et d'ailleurs, on voit bien, même aujourd'hui dans le débat politique, alternativement, ce sont des personnes de droite ou de gauche qui, tour à tour, défendent ou poursuivent les statistiques ethniques et même la position des...
Alors, ce qui est intéressant, justement, et c'est ce pourquoi j'ai interrogé tout à l'heure Esther Benbassa, c'est qu'elle a écrit son rapport, elle, sénatrice Europe Écologie Les Verts, avec un parlementaire député, je crois, qui lui est plutôt d'hiver droite. Donc, ça montrait aussi que c'était un débat qui était parfois un petit peu plus compliqué. Je vous rappelle donc que vous êtes sur RFI. Pour ou contre les statistiques ethniques, c'est le débat de ce soir avec nos deux invités, France Guérin-Passe, qu'on vient d'entendre, et François Héran. France Guérin-Passe, vous avez prononcé ce mot stigmatisation, c'est l'un des arguments qu'on entend beaucoup. Vous craignez que dans certains cas, si le verrou est ouvert vers l'utilisation d'un certain type de statistiques ethniques, on aille vers une stigmatisation de populations déjà stigmatisées ?
Oui, c'est un des risques, c'est-à-dire que cette forme d'assignation identitaire, quand vous proposez aux personnes cinq catégories dans lesquelles elles doivent se reconnaître, même si vous leur proposez de donner elles-mêmes leur sentiment d'appartenance ou leur auto-identification, le risque est toujours de, à force de se déclarer de cette manière, de reproduire cette identification. D'ailleurs, c'est un des grands, aux États-Unis, on voit bien qu'un des freins pour se débarrasser des catégories raciales qu'on essaye petit à petit de mettre du recensement vers la grande enquête américaine qui est auprès de centaines de milliers de personnes, c'est justement de savoir comment est-ce que les personnes peuvent elles-mêmes sortir de ces catégories et ne pas reproduire. Et donc, ce qui est dit, c'est qu'il faudra des décennies pour pouvoir s'en débarrasser. Et on sait qu'aujourd'hui, les politiques de discrimination positive aux États-Unis comme au Brésil, on fait actuellement une recherche sur les États-Unis, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde. Et on se rend compte aujourd'hui que les politiques de discrimination positive, parce qu'il faut un objectif derrière, surtout quand vous mettez des catégories dans le recensement, montrent aujourd'hui leurs limites et que de plus en plus de personnes y sont opposées et portent des recours, que ce soit dans les universités brésiliennes, que ce soit aux États-Unis, pour contester la manière dont sont favorisées certaines populations. Et souvent, les populations elles-mêmes, d'ailleurs, ne souhaitent plus être identifiées de cette manière-là, comme si elles étaient favorisées alors qu'elles n'ont pas les mêmes compétences.
Alors, sur cette notion d'efficacité des éventuelles politiques de discrimination positive qui découleraient des statistiques ethniques, François Héran, il y a un peu un contre-exemple, vous me dites si je me trompe, la France, la loi sur la parité, il y a eu toute cette législation aussi concernant les personnes à mobilité réduite, et là on dit plutôt c'est efficace. Alors est-ce que vous, c'est un argument que vous reprenez sur la parité? C'est vrai qu'il y a quand même plus de femmes aujourd'hui représentées politiquement.
Je pense que le chercheur, quand il fait une enquête, ne peut absolument pas s'engager en disant mon enquête va être utile et va permettre de réduire les inégalités et de lutter contre la discrimination. Je prends un exemple simple, vous avez des quantités d'enquêtes sur la distribution des revenus. Ben, vous n'allez pas dire « je fais une enquête sur la distribution des revenus pour diminuer l'inégalité des revenus ». Vous ne revendiquez pas un tel objectif et personne ne vous le demande. Il n'y a aucune raison, si vous faites une enquête sur les discriminations ou si vous faites une enquête sur effectivement les probabilités qu'ont les gens en fonction de leur origine d'accéder aux biens de toutes sortes, au logement, à l'éducation, à l'emploi, à la promotion, etc. Vous ne pouvez pas vous engager en disant « je fais cette enquête parce que je suis sûr qu'elle fera du bien pour la société, qu'elle apportera les bons remèdes et que ça va justifier l'enquête ». Nous ne faisons jamais ça, nous éclairons les décideurs qui veulent utiliser ces sujets. Et le débat public, alors moi j'ai une devise, qui est celle de Benjamin Constant, c'est que mieux vaut l'erreur libre que la vérité imposée. L'erreur libre, c'est le débat. C'est-à-dire que tout le monde peut débattre, peut contredire, peut argumenter, peut réfuter, mais l'idée d'interdire l'accès aux données, ou l'idée d'obliger les chercheurs à s'engager à l'avance, à promettre que leur enquête sera possible uniquement si elle est utile et si elle promet des avancées, de quelque chose de progressiste, ça on ne peut pas, c'est pas notre métier. Nous devons éclairer le débat, nous devons alimenter le débat en données, mais nous ne pouvons pas nous engager à promettre des choses qui seraient nécessairement en faveur de telle ou telle politique. Donc je pense qu'il n'y a pas de lien direct entre les statistiques ethniques et une politique de discrimination positive. Ce lien n'est pas du tout mécanique.
France Garimpas, je vous voyais réagir. Parce que c'est vrai que c'est un argument qu'on entend, c'est aussi le titre de l'éditorial du Monde. Soyons réalistes, on a besoin, c'est juste un apport scientifique finalement.
Alors, c'est vrai, on n'a jamais demandé à une enquête en sciences sociales de pouvoir certifier qu'on allait obtenir des résultats et pouvoir appuyer des politiques dessus. Ça, c'est l'objectif du recensement. En revanche, vous avez des enquêtes qui peuvent se faire, des enquêtes en situation, comme on peut les appeler, qui font que vous êtes à une sortie de gare ou à une sortie de métro devant une boîte de nuit, et que là, vous allez mesurer les refus, les personnes qui se font arrêter. Donc, ces enquêtes-là peuvent permettre, sur des données ponctuelles, de mesurer dans une situation précise. Moi, j'aimerais revenir sur la question que vous avez posée sur le fait d'être homme ou femme et les statistiques, ce que l'on fait de ces statistiques. Il me semble qu'il y a une très très grande différence entre ces statistiques et celles sur les statistiques ethno-raciales. À part à de rares exemples près, il est facile de qualifier une personne d'homme ou de femme. Après, elle peut toujours vous dire qu'elle se sent l'un ou l'autre, mais c'est un classement qui est facile. En revanche, classer selon un référentiel ou classer selon une appartenance ethnique les personnes fait que le plus souvent vous occultez le social. Or, quand vous qualifiez une personne, quand une personne se déclare homme ou femme, il ne vous viendra jamais à l'idée, justement, de ne pas l'étudier aussi par ses revenus, par le fait qu'elle habite, je ne sais pas, dans une zone urbaine sensible ou en périphérie ou en milieu rural. Alors que quand vous parlez de statistiques ethniques, et pour les personnes qui parlent de statistiques ethniques, c'est comme s'il y avait un résumé, quelque chose qui fait que de toute manière, enfin d'une certaine manière un petit peu mécanique, alors il y a cette discrimination qui va avec. Alors qu'on sait bien qu'il y a une très grande diversité aussi des personnes qui sont issues de l'immigration. Soit on prend la couleur de peau, soit on prend le pays de naissance des parents, soit on peut prendre la manière dont elles se définissent, sachant que des personnes n'ont jamais mis le pied dans le pays de naissance de leurs parents. Donc c'est un objet qui est extrêmement compliqué à définir et c'est là que viennent le plus souvent les malentendus.
Alors justement, sur le côté éluder le fait social, donc Hervé Lebras, démographe et historien favorable comme vous, France Guérin-Pass aux statistiques ethniques, écrivait que se focaliser sur l'ethnie, c'était éluder le fait que les riches et les pauvres n'ont pas le droit au même traitement face à la justice. Alors, quelle est votre position par rapport à cet argument, François Héran ?
Eh bien, écoutez, je crois qu'il n'y a aucune concurrence entre l'approche par genre, l'approche sociale, l'approche ethnique, l'approche géographique, etc. Il faut que toutes ces différences-là, ces inégalités, éventuellement ces discriminations, et aussi la religion, hein, dont on n'a pas parlé, il faut que tout ça puisse être étudié. Et ce qui est très intéressant dans l'enquête trajectoire et origine que l'INED et l'INSEE ont fait ensemble en 2008-2009, c'est qu'il y a tout ça. Et que quand vous regardez en détail, par exemple, les performances scolaires des enfants en fonction de l'origine, en fonction du milieu social, en fonction de l'éducation, des revenus des parents, etc., en fonction de l'habitat, du fait que vous avez ou pas une chambre où vous pouvez travailler seul, etc., etc., tout ceci figure dans l'enquête, eh bien, vous êtes capable de dire, mais voilà, il y a une partie des discriminations qui est liée à la religion, parce que les gens repèrent votre religion et vous discriminent en fonction de ça. Il y a une partie des inégalités qui sont liées aux différences de capital culturel, économique, etc., qui vient des parents. Il y a une partie, etc. Il y a aussi des interactions entre ces variables. Et donc, le but du sociologue, c'est pas du tout de dire « j'étudie telle variable pour occulter telle autre ». Le sexe peut aussi, si on s'y prend mal, occulter tout le reste. Hein. Il y a des gens qui développent une espèce de féminisme et qui est tout à fait asocial. Le problème est général et moi, nous plaidons, en réalité, je pense que France et moi, nous avons chacun fait des enquêtes qui se caractérisent par le fait qu'il y a énormément de choses dans ces enquêtes. Il y a des quantités de variables, il y a des quantités de perceptions, de représentations, de données objectives. Et nous essayons justement, parce qu'il y a des modèles statistiques qui maintenant nous le permettent, de peser chacun de ces facteurs, de regarder comment ils agissent ensemble. Donc il faut en finir avec la concurrence des variables.
Alors un dernier mot là-dessus, il nous reste quelques secondes, France Guérin-Plas, sur la possibilité d'avoir un facteur parmi beaucoup d'autres finalement.
Moi, ce qui me semble aujourd'hui la question vraiment la plus importante, c'est de savoir s'il faut vraiment faire, si on veut réduire les inégalités sur le territoire français, est-ce que c'est plutôt faire des politiques sociales à l'intention des individus ou plutôt des politiques à l'intention des groupes, ou alors des politiques sur le territoire comme c'est fait, en disant qu'indépendamment des habitants qui vivent sur le territoire, qu'ils soient de telle ou telle origine, on cherche à réduire les inégalités.
Eh bien, on en fera un prochain débat. Merci beaucoup donc à France Guérin-Passe, à François Héran, à Sigrid Azerwal et à Valentin Vanner. On se retrouve demain pour un nouveau débat sur RFI. Thank you.